Bonsoir. 10 personnes ont été tuées hier à Beni dans le Nord Kivu, selon la société civile locale qui attribue ce massacre au groupe armé ADF. Cela porte à environ 30 le nombre de personnes tuées dans cette partie de la RDC en moins d'une semaine. Quel kiffer de ce énième massacre à Beni, c'est l'objet du débat de ce soir et nous avons dans cette émission Ferdinand Kambere, il est secrétaire permanent adjoint du PPRD. Bonsoir monsieur Ferdinand Kambere. Il n'est pas encore là. Kiro Tchongo, député national de l'opposition et secrétaire général du parti politique RCD-KML. Il est aussi coordonnateur régional de la plateforme politique Ensemble pour le changement au Nord Kivu. Bonsoir, honorable Kiro Tchongo.
Bonsoir, Dimitri.
Et maître Oswald de Bafounyembaka, il est chercheur en droit international pénal. Bonsoir, maître Oswald de Bafounyembaka.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Nouvelle attaque d'hommes armés la nuit dernière au quartier Mabassele de la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni dans le Nord Kivu. Selon la société civile locale qui l'attribue à l'ADF, le bilan provisoire fait état de 10 personnes tuées et une autre portée disparue. La présidente de la société civile du territoire de Beni, qui dénonce la recrudescence des attaques ADF à Oicha, dit craindre que cette situation n'affecte le processus électoral dans la région. On écoute Noëlla Mouliouavio au téléphone de Martial Papi Moukeba.
Il y a eu l'incursion des hommes armés à Oicha vers l'ouest dans le quartier Mabassele. Nous sommes maintenant dans le bilan de 10 personnes tuées et dans ces 10 personnes, il y a 2 femmes qui ont été tuées et il y a une personne portée disparue, c'est une femme. Nous sommes sur place, nous avons constaté que c'était toujours des ébriers compte tenu de leur mode opératoire. Pour l'instant, la population veut vider le quartier. Vous savez que même le côté est vidé et voilà que l'ennemi attaque maintenant le côté ouest. Les incursions se poursuivent. Chaque semaine, il y a incursion à Oicha. Quand il y a incursion, c'est toujours le déplacement aussi massif de la population. Et ce qui nous inquiète fort, c'est que peut-être à Oicha, il n'y aura pas des élections parce que même ce qui s'observe, c'est que le bureau de la CENI au territoire de Beni a déménagé vers la ville de Beni. Et cela prouve qu'il y aura risque que la population des territoires de Beni ne va pas aller aux élections.
Jeudi 6 décembre dernier, les rebelles ADF ont lancé 2 attaques à Mangolikene, dans le territoire de Beni, et à Païda, un quartier de la ville de Beni au Nord Kivu. Selon les sources de la société civile, les bilans provisoires faisaient état, n'est-ce pas, d'une dizaine de civils tués par les assaillants. Martial Papi Moukeba pour les détails.
La première attaque est intervenue jeudi matin à Mangolikene, dans la vallée du Graben, à environ 15 km du nord-est de la ville de Beni. Selon les sources de la société civile, un groupe de l'ADF a attaqué des cultivateurs qui se trouvaient dans leurs champs. D'après la même source, le bilan provisoire fait état des 13 civils tués. Ce bilan est confirmé par les sources militaires qui précisent toutefois que Mangolikene se trouve dans la zone interdite d'accès à la population par les FRDC pour des raisons opérationnelles contre l'ADF. Ce groupe armé a également mené une nouvelle attaque ce même jeudi la nuit à Païda, un quartier périphérique de la commune Rwenzori en ville de Beni. Les sources locales et de la société civile parlent de 5 civils tués, dont une femme et un enfant, ainsi que des blessés. Les corps de certaines victimes de ces attaques sont déjà à la morgue de l'hôpital général de Beni. Selon les sources hospitalières, une vive tension est observée sur place. La population en colère, ainsi que les membres de famille des victimes, refuse l'accès à la morgue au personnel médical. Beni, Martial Papi Moukeba, Radio Okapi.
Merci à vous, Martial Papi Moukeba. Ferdinand Kambere, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD. 10 personnes ont été tuées hier à Oicha dans Beni. 18 personnes ont été tuées jeudi dernier, n'est-ce pas, à Mangolikene et Païda, toujours dans les territoires de Beni. C'est environ 30 personnes qui ont trouvé la mort dans un espace d'une semaine dans les territoires de Beni suite aux attaques des ADF. Et comment vous comprenez cela, monsieur Ferdinand Kambere?
Nous sommes en train de déplorer tous ces massacres qui s'achènent après le passage d'un candidat qui a voulu monter sa popularité sur ces massacres-là. Vous le savez bien que dans l'opinion à Beni, un candidat monté sur les chevaux pour dire que ce qu'il n'a pas pu être capable de résoudre dura 5 ans, parce que vous savez, les massacres aussi commencent depuis le massacre de Kamango, et que la population civile périt, les enfants, les femmes périssent dans ces massacres-là. Les éléments du FARDC, les éléments du casque bleu périssent dans ces massacres-là, et que quelqu'un monte là-dessus pour dire que lui est capable de terminer ce massacre en 2 jours. Il passe à Beni pour monter sur le même chevaux pour dire que lui, la solution, c'est de déplacer les camps Kokolo pour l'amener à Beni. Et voilà, juste après son passage, massacre après l'autre, et tout ça continue à terroriser une population qu'on est en train de sensibiliser pour participer aux élections. Vous savez, les quartiers visés là, c'est un quartier presque qui environne la commune de Rwenzori, qui est presque abandonnée à 3/4. Et que dans l'espoir de l'organisation des élections, si tous les acteurs politiques étaient prêts à accompagner ces populations, à former ces populations pour qu'ils participent à ces élections dans la paix, je crois que ces massacres ne se justifieraient plus.
Mais voilà, c'est encore
des familles. Ouais.
Oui, quand vous dites que ces massacres s'enchaînent après le passage d'un candidat, vous faites allusion à quel candidat?
Mais celui qui est passé, le premier qui est passé, et qui, avant son passage, plusieurs échos, c'était d'appeler à ce que lui soit élu, et que dès qu'il est élu, à moins de 2 mois, il va terminer tout le théâtre des massacres.
Alors, vous ne voulez pas citer son nom, c'est le candidat Fayoulou, c'est ça?
Oui, tu sais bien, parce que tu oui. Suivais aussi avec moi.
Oui, monsieur Kambéré, vous n'allez pas établir, n'est-ce pas, les liens entre les passages de monsieur Fayoulou et ces nouveaux massacres à Beni. On sait que ces massacres se commettent tous les jours, toutes les semaines depuis 4 ans, et ce n'est pas parce que monsieur Fayoulou est passé par là qu'il a eu ces nouveaux massacres. On sait que ça s'est fait depuis 4 ans, monsieur Kambéré.
C'est lui ou ses propagandistes qui établissent les liens. Parce que comment imaginer que quelqu'un qui, s'il est élu, va succéder à un ancien président, donc il va former un nouveau président, qui du coup vous parle d'une armée, d'une organisation, d'une armée que personne ne sait imaginer comment ça va se faire. C'est lui-même et ses propagandistes qui ont fait ça, qui ont fait entrer ça dans l'opinion.
Ferdinand Kambéré, ces nouveaux massacres sont commis par les ZDF pendant que les opérations conjointes FRDC MONUSCO sont en cours, n'est-ce pas, contre ces rebelles. Et peut-on affirmer que ces opérations qui ont été lancées il y a de cela environ 1 mois n'ont pas encore affecté la capacité des nuisances de ces rebelles ougandais?
Oui, parce que ce qu'on a compris depuis que ces massacres ont commencé, c'est que à un moment donné, les forces armées arrivent à au moins à neutraliser les bastions de ces rebelles, mais ceux-ci changent de tactique, reviennent peut-être avec de nouveaux éléments à recruter dans ce pays voisin, parce que vous le savez que la plupart des fois, soit ils sont membres de ou sont des nationalités différentes, ça veut dire qu'ils sont recrutés chaque jour. Il y a une machine de recrutement qui se passe au quotidien, et c'est là quand ça se mélange parfois avec des forces locales, des groupes armés peut-être locaux, c'est là où ça complique la tâche parfois. Mais vous le dites, quand les opérations conjointes ont commencé, FARDC et MONUSCO, encore une fois, là c'était presque toute la ville qui était menacée. Est-ce que ces menaces reviennent carrément contre toute la ville et que ceci pour essayer d'empêcher la population à aller voter librement le 23 décembre? C'est là où on se pose énormément de questions. par rapport à ceux-là qui appellent à la population à aller voter et d'autres membres de la classe politique qui disent que même au 23, il ne faut pas utiliser la machine et que donc c'est le cas de violence, c'est le cas de, du chaos, on ne sait pas.
Ferdinand Cambéré, ça fait 4 ans que ces massacres ont commencé et on n'arrive toujours pas, n'est-ce pas, à identifier les véritables ennemis parce que on continue à parler des présumés ADF. N'est-ce pas là l'une des raisons fondamentales, n'est-ce pas, qui peuvent expliquer la persistance du phénomène ADF? N'est-ce pas qu'il est difficile de neutraliser un ennemi qu'on ne connaît pas, d'où la nécessité de renforcer les renseignements?
Oui, c'est parce que cette terreur installée, comme vous l'avez dit, depuis 4 ans, une terreur qui ne disait pas son nom et qui prend comme ça une identité des EDF Nali, mais que, comme je l'ai dit, qu'une classe politique cherche à monter dessus pour justifier un combat politique quelconque. Parce que vous le savez bien que quand ces massacres ont commencé, il y a quand même certains acteurs qui savaient vous dire, c'était par RFI, que 3 jours avant que ça ne commence, et savaient que les massacres allaient se perpétrer. Et ce sont les mêmes acteurs qui sont en train de donner des mots d'ordre pour dire, si vous votez Fayulu, donc à moins de 2 mois, les massacres vont se terminer. À un moment donné, l'identité peut-être va se révéler.
Oui, est-ce que vous êtes étonné que certains acteurs politiques puissent exploiter, n'est-ce pas, ces massacres? Nous sommes dans une période de campagne électorale et c'est fait partie, n'est-ce pas, du bilan du gouvernement actuel. C'est tout à fait normal, n'est-ce pas, c'est tout à fait naturel que les hommes politiques puissent exploiter ça pendant cette période de campagne électorale, n'est-ce pas?
Oui, je pense que c'est le sang quand même des Congolais qui coule et que lorsque ceux-là qui s'adonnent comme ça à verser le sang innocent profitent de ça pour vouloir, comme j'ai dit, construire une quelconque popularité, encore que même si on continue à rechercher le vrai criminel, sachez qu'avec les opérations conjointes, il y a eu quand même des gens qui ont été capturés et qu'il y a eu des opérations qui ont eu des succès. Même s'ils reviennent, mais il y a déjà capturé, ils pourront être auditionnés, on saura.
Ferdinand Cambéré, vous dites qu'il y a des gens qui ont été capturés, mais on se rend compte que ces personnes capturées n'ont jamais été présentées publiquement, et on se rend compte que les procès ne sont jamais organisés. Au début, il y avait quelques procès qui étaient organisés, mais qui n'ont pas, n'est-ce pas, apporté des, qui n'ont pas eu d'impact sur terrain parce que la situation sécuritaire n'a pas changé. Et comment vous expliquez cela, Monsieur Cambéré?
Bon, je n'ai pas d'explication quelconque. Je sais que des crimes quand ils se commettent, que la justice est derrière, tôt ou tard, on finit par. Parce que c'est quand même des crimes contre l'humanité, c'est quand même le terrorisme qui est en train de se commettre en ville de Beni. Et c'est par là où on s'attend le moins que les terroristes choisissent de frapper, parce qu'ils ont un objectif. Et je regrette qu'aujourd'hui, lorsque les acteurs politiques qui sont là pour les élections choisissent ça, pour en faire un cheval de bataille.
Merci.
C'est à cela que je dis non.
Merci.
Il y a eu des procès contre les EDF, il y a eu ceux qui ont été condamnés, d'autres qui étaient emprisonnés, et vous savez que les prisons ont subi les attaques de ces mêmes gens pour qu'ils soient libérés.
Merci, je vous redonne la parole, M. Cambéré. Kiro Tchongo, député national de l'opposition et secrétaire général du parti politique RCD-KML, vous êtes aussi coordonnateur régional, n'est-ce pas, de la plateforme politique Ensemble pour les changements au Nord Kivu. Comment vous avez accueilli cette information faisant état des nouveaux massacres des populations à Beni?
Écoutez, je suis particulièrement sidéré. Parce que là, nous sommes à près de 30 morts en moins d'une semaine. C'est devenu comme de la routine, les morts qui se succèdent jour après jour. Et donc, ça veut dire clairement que tous ces assaillants, ils peuvent aller et venir, massacrer quand ils veulent, où ils veulent, dans l'indifférence générale de la part de ceux qui sont censés apporter la sécurité, c'est-à-dire c'est-à-dire le gouvernement, parce qu'il vous souviendra par exemple que le chef de l'État n'a jamais présenté la moindre compassion aux victimes de Beni. Les médias nationaux, les médias de l'État comme la RTNC n'en parlent jamais pratiquement. Donc voilà, nous sommes dans une situation où on assiste malheureusement à une banalisation des massacres et de Beni, et ça c'est à mettre à l'actif, si je peux m'exprimer ainsi, du gouvernement.
Alors vous parlez de banalisation.
Oui.
Vous parlez des banalisations de ces massacres.
En tout cas, les médias n'en parlent pas. Le chef de l'État, le gouvernement font comme si c'est devenu de la routine et qu'il n'y a rien de grave. Voilà.
Et là,
je voudrais réagir au propos de mon co-débatteur, Ferdinand Tambéré, qui tente maladroitement de lier les derniers massacres au passage du candidat Martin Fayoulou ici à Beni. Je dois lui rappeler que Martin Fayoulou a promis de mettre fin à la guerre dans deux ou trois mois après son accession au pouvoir. Il n'a jamais dit qu'il allait mettre fin à ce massacre pendant qu'il était candidat. N'est-ce pas? C'est une fois élu qu'il va mettre en place une politique qui fera en sorte que la guerre cesse. N'est-ce pas? Il est particulièrement malhonnête de dire, voilà, Martin Fayoulou est passé, après il y a eu des massacres. Non, tout le monde sait que les massacres durent depuis plus de 4 ans. Donc, c'est une précision de taille qu'il fallait absolument apporter par rapport à cela.
Honorable Kirochongo, on rappelle que ça, c'est depuis un mois, il y a des opérations conjointes FRDC-MONUSCO qui sont en cours. Et c'est vrai qu'il est encore trop tôt, n'est-ce pas, d'évaluer ces opérations. Mais vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que la fréquence des attaques est toujours la même ou il y a eu une certaine diminution des attaques depuis que ces opérations conjointes ont commencé?
En tout cas, ce que nous constatons sur le terrain ici, c'est que les agresseurs, les assaillants, ils peuvent aller et venir quand ils veulent. Ils peuvent massacrer où ils veulent et voilà. Ils repartent, il n'y a jamais de prisonniers parmi eux, il n'y a jamais de blessés parmi eux, donc voilà, des fois ça peut même tirer toute la nuit. On apprend qu'il y a eu une incursion à gauche ou à droite, et ça tire toute la nuit, et le lendemain matin, on nous apporte pas le moindre cadavre d'un agresseur, encore moins blessé. Donc voilà, nous constatons que malgré les opérations conjointes, en tout cas, il n'y a rien de palpable qui se voit, parce que vous souviendra par exemple qu'il y a un quartier de Beni qui s'appelle Ngadi. Il a été attaqué 4 fois en un mois, il y a à peu près 2 mois. Donc voilà, les opérations conjointes avec la MONUSCO, elles sont peut-être en cours. En tout cas, les fruits ne se font pas encore voir.
Il est dit que les ZDF opèrent souvent le week-end, ils opèrent à la tombée de la nuit et souvent pendant la pluie. Est-ce qu'il y a une explication à cela, honorable Kirochongo?
Non, je ne sais pas avoir une explication à cela, mais tout ce que je peux déplorer, c'est que, sachant que les agresseurs, ils attaquent généralement la nuit, personne ne prend des précautions. Disons, la nuit, le week-end, personne ne prend jamais des précautions pour anticiper tout cela. Et c'est là que moi, je stigmatise la faiblesse de nos services de renseignement, parce que c'est eux qui doivent pouvoir anticiper. En tout cas, nous sommes dans une situation où l'armée a tendance à subir et à contre-attaquer après avoir été attaqué. Voilà.
Alors, comment vous expliquez les difficultés que nous avons, n'est-ce pas, à pouvoir identifier les véritables ennemis? Parce que depuis 4 ans, depuis que ce phénomène existe, depuis qu'il y a cette série de massacres, on ne parle que des présumés EDF. Comment vous expliquez cette difficulté à pouvoir identifier les véritables auteurs, n'est-ce pas, de ces massacres?
Je crois qu'il s'agit simplement d'une défaillance de l'État, dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, il y a des complicités internes qui font que les pistes sont brouillées. Parce que vous vous souvenez quand même qu'au début des massacres, les autorités avaient affirmé qu'il s'agissait d'une rébellion en gestation, avec à sa tête Moussa Yamoussi. On est passé de cette accusation à celle des autochtones mandés qui s'entretuèrent entre eux. Après, on est passé à la version des EDF, aidés par les autochtones nandais. Et aujourd'hui, le commandement militaire, le gouvernement nous parle de terroristes internationaux qui se recrutent en Ouganda, au Kenya, au Burundi, en Tanzanie, au Kenya, et même parmi les gens, parmi les islamistes qui ont été défaits en Syrie. Donc, je crois que quelque part, il y a une défaillance, une démission totale de la part des services de l'État.
Oui, honorable Kiro Tchongo.
C'est pas possible que 4 ans après, on en soit encore à des supputations, parce que là, nous en sommes à la 4e version. Vous et moi, personne ne sait quelle sera la 5e version dans 1 ou 2 mois.
Benny, ce n'est pas seulement le massacre, hein. Il y a aussi l'épidémie de la fièvre Ebola, n'est-ce pas, qui sévit dans cette partie du pays. Vous êtes candidat à la députation nationale. Et comment vous parvenez à battre campagne dans ces conditions sécuritaires et sanitaires très difficiles?
Non, il faut dire que la campagne à Benny est particulièrement difficile du fait notamment de l'insécurité qui amène de déplacement, parce que comme vous le savez peut-être, il y a toute une commune, celle de Rwenzori en l'occurrence, qui s'est pratiquement vidée de sa population à cause des massacres. Il y a la population qui ne sait plus accéder aux champs, il y a les élèves qui ne vont plus à l'école, il y a une détresse et une pauvreté généralisée avec des kidnappings, etc. Et avec tout cela, il y a aussi l'épidémie, la maladie à virus Ebola. Donc tout cela fait que la campagne électorale est plutôt morose ici à Béni. On ne voit pas vraiment de grandes manifestations. Et voilà, tout le monde a peur de tout le monde. On ne sait pas se faire des accolades, on ne sait pas se serrer la main. Et voilà, c'est vraiment déplorable. Béni vit l'enfer sur Terre.
Maître Oswald Bafunyembaka, chercheur en droit international pénal, votre analyse par rapport à cette insécurité qui sévit depuis 4 ans dans les territoires de Béni?
Oui, merci. Je commence d'abord par m'incliner sur la mémoire des victimes de cette énième tuerie perpétrée à Béni et dans ses environs. Et je présente mes condoléances aux familles encore une fois éplorées. Ce qu'il y a à déplorer, c'est, comme vous pouvez le constater, la polémique politicienne dans laquelle les politiques s'engagent en lieu et place de se poser des questions de fond sur ce qui explique comment depuis 4 ans nous avons des rebelles étrangers opposants à un régime étranger qui sont établis sur les territoires nationaux et qui sont en train de perpétrer continuellement des crimes sur des citoyens congolais. C'est ça la question de fond qu'il faudrait se poser au lieu de s'engager dans des politiques, dans des polémiques inutiles. Ici, nous sommes dans une région qui, en principe, est enclavée en ce que elle n'a pas de sortie sur la mer et on ne comprend pas comment est-ce que une rébellion qui se retrouve dans cette partie du pays peut être ravitaillée, peut être financée et avec cela se permettre toutes les tueries, tous les actes terroristes qu'elle perpètre depuis 4 ans sur le territoire national sans, il faut bien noter, sans toucher les populations contre lesquelles ils sont censés être opposés, c'est-à-dire l'Ouganda. Je pense que depuis plusieurs années, nous n'avons pas appris que les ADF Nalu se sont attaqués au régime ougandais, mais ce sont les populations congolaises qui sont en train d'en mourir. Alors, c'est unième tuerie, pour un peu revenir sur la chronologie. Vous constaterez avec moi que récemment, au cours des opérations conjointes entre l'armée congolaise et la MONUSCO, les rebelles ont été repoussés. Je pense que c'était autour du 30 novembre, pendant que ces rebelles s'apprêtaient à attaquer les quartiers généraux de l'équipe qui est chargée de éradiquer le phénomène Ebola. Ces rebelles ont été repoussés et ont même perdu, d'après les éléments qui ont été rapportés à travers les médias, que ces rebelles ont même perdu certains de leurs combattants. Alors, moi, je pense que c'est en représailles de ces pertes que ces rebelles ont attaqué récemment le coin et on dénombre aujourd'hui environ 30 morts. Donc, si cela se retrouve que ça tombe dans les contextes de la campagne électorale, on peut, selon qu'on est de l'opposition ou de la majorité, tirer la couverture de son côté, mais les questions de fond, c'est de poser la question pourquoi cette situation et qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, selon la société civile locale, ces attaques ont fait en 4 ans plus de 2000 morts. Maître Oswald Bafunyambaka, vous êtes juriste. Est-ce que ces personnes sont mortes pour rien? Dans un tel contexte, qu'est-ce qu'on peut envisager pour rendre justice, n'est-ce pas, aux victimes?
Oui, dans ces contextes, la première chose, c'est d'arrêter de banaliser la situation. Parce que nous sommes habitués de plus en plus à penser que, bon, il y a eu des tueries à Beni. On publie sur les réseaux sociaux, je suis Beni, pendant 2 jours, 3 jours, on oublie. 2 semaines après, il y a des tueries. Non, la première chose, c'est de cesser avec la banalisation de la question et de s'asseoir pour réfléchir sur les questions de fond. Nous sommes ici en face de ce qu'on appelle en droit international pénal, en face d'une situation, d'un phénomène terroriste internationalisé. Internationalisé, pourquoi? Parce que autour de ces ADF Nalu, qui sont des Ougandais, il y a d'autres groupes rebelles nationaux qui se sont joints à eux. Il y a des groupes rebelles qui s'opposent au régime du Rwanda qui se sont associés à eux et qui font un show terroriste dans cette partie de la République démocratique du Congo. Donc, au-delà d'être un phénomène entre guillemets banalisé par selon qu'on est d'un camp ou d'un autre, il s'agit d'un problème, d'un phénomène terroriste internationalisé où en principe, la communauté internationale devrait tabler sur la question, entre autres en proposant une conférence internationale spéciale sur la question des tueries qui se passent dans cette partie du territoire. Parce que comme vous venez de le dire, c'est plus de 2000 personnes que l'on peut maintenant dénombrer comme victimes dans cette partie du pays. C'est 2000 personnes qui sont soit de l'opposition, soit du pouvoir ou de la société civile. Donc, ce sont des populations congolaises qui sont en train de mourir pour des actes terroristes commis par des groupes rebelles qui, aujourd'hui, même les États-Unis a inscrit ce groupe sur la liste de mouvements terroristes.
Un mouvement terroriste internationalisé, oui, comme vous le dites, mais comment vous expliquez cette sorte de passivité, n'est-ce pas, de la communauté internationale, qui apparemment ne se soucie pas, n'est-ce pas, de ces problèmes, à part ces opérations conjointes FRDC et MONUSCO? On ne sent pas des puissances étrangères, n'est-ce pas, se préoccuper de ces phénomènes-là et proposer, n'est-ce pas, des pistes, des solutions.
Dire que la communauté internationale ne s'intéresse pas, c'est quand même un peu trop. Parce que déjà qu'il y ait des opérations conjointes de la MONUSCO, FARDC et MONUSCO, ça signifie que la communauté internationale s'implique aussi dans l'éradication de ces phénomènes. Je tiens à donner un bref détail, c'est que avec les tueries qui ont eu lieu récemment en Ituri, où même les forces de la MONUSCO ont perdu des troupes, les forces de la MONUSCO venaient de perdre depuis 1993, c'est le plus grand nombre de victimes de forces de MONUSCO que nous avons perdues. Donc, dire que la communauté internationale ne fait rien, c'est quand même un peu trop dire. Mais seulement ce que je dirais, c'est que la communauté internationale ne fait pas assez. Ne fait pas assez quand l'on compare avec les autres actes terroristes qui sont perpétrés à travers le monde, notamment au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Nous voyons qu'il y a une faible mobilisation de la communauté internationale. Une faible mobilisation qui peut s'expliquer d'abord par le fait que nous-mêmes au niveau national, nous ne vendons pas suffisamment cette question. Il faut voir comment est-ce que sous d'autres cieux, entre autres en Occident, quand il y a 2 morts, quand il y a 7 morts, c'est toute la communauté internationale qui s'émeut parce que déjà les autorités locales savent vendre la question. Mais si de nous-mêmes nous ne savons pas vendre notre situation, c'est un peu compliqué. Et puis de deux, que la communauté internationale ne s'intéresse pas assez, ça peut aussi s'expliquer sous le fait que nous avons apparemment à notre niveau en République démocratique du Congo 2 discours. Il y a des moments où nous faisons montre d'une souveraineté souvent très mal placée, quand il faut parler de certains sujets, mais quand il faut traiter d'autres questions qui nous concernent directement, nous allons recourir à la même communauté internationale. Là, nous jouons à un double jeu qui sur l'échiquier mondial ne satisfait pas nos partenaires.
Merci Ferdinand Kambere. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Bukavu, Sud-Kivu.
Robert, Mohamed de Bukavu, Sud-Kivu. Cet énième massacre de Beni est à déplorer. Encore une fois, il traduit le fait qu'il ne prend pas du tout au sérieux de la situation sécuritaire en RDC et en particulier dans sa partie Est. Je me demande ce que peut dire le gouvernement congolais s'il s'investit de tout cœur dans la sécurité de sa population. Autrement, est-ce par mauvaise foi ou par manque d'intérêt réel que le gouvernement congolais n'aurait pas s'occuper de la sécurité du pays? Sinon, est-ce quoi le juste? Et pourtant, à l'interne comme à l'externe, il y a lieu de trouver facilement et de manière durable des solutions aux différents problèmes sécuritaires de la RDC.
Monsieur Ferdinand Kambere.
Merci encore une fois pour cet intérêt que l'auditeur montre dans ce débat. Vous le savez bien, j'ai bien aimé l'intervention de l'expert à ce qu'il a appelé de la banalisation du phénomène terroriste internationalisé. Vous savez, et cette banalisation vient plutôt de l'opposition, parce que quand je suis mon frère, le secrétaire général, je crois, du KML, Zongo Kiro, quand il vous parle, mais il oublie qu'il est député, c'est quand même un élu. Et il revient d'une mission, il n'y a même pas plusieurs mois, il revient d'une mission, il y a quelques jours, de Beni. Et qui vous disent qu'on est en face d'une armée qui ne fait rien, inerte, alors que qui n'a jamais attrapé un seul EDF, alors qu'on sait que les opérations conjointes, il y a eu ceux qui ont été tués, il y a eu ceux qui ont été attrapés, ils sont arrêtés, et qu'on attend, parce que la justice, elle est ce qu'elle est, elle est en train de faire certainement peut-être les auditions, et qu'elle pourra montrer cela. Je me rappelle les corps d'un EDF qui était laissé, je crois, à ciel ouvert, qui était montré au public, c'est encore la même opposition et une certaine société civile qui montait au créneau qu'il y avait violation des droits humains, qu'un corps... Mais ces gens, quand ils massacrent, est-ce qu'on a pitié, on a vu quel jour où cette opposition, sinon que déraler sur le gouvernement, où ils avaient simplement pitié de ceux qui sont blessés. Ils en profitent simplement pour parler des faiblesses du gouvernement. Mais quand on est député, on est élu, on est payé sur on perçoit les salaires qui est nécessairement collecté sur le sueur du front du peuple congolais. Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on doit parler de son propre gouvernement? Quelles sont les initiatives qu'il y a eu au niveau du gouvernement de part de tous ces élus où on a vu tous les élus décider de se mettre ensemble pour essayer d'améliorer les lois sur les réformes de la sécurité et ainsi de suite. C'est quel jour qu'ils ont fait ça? Il ne faut que s'acharner sur le gouvernement sans rien proposer de positif.
Ferdinand Kambere.
Ils sont pendant 5 ans et ils sont au gouvernement depuis 6 ans.
Ferdinand Kambere.
Depuis 6 ans, ils sont au gouvernement.
Ferdinand Kambere, vous avez suivi.
Voilà. Et si on ne doit pas banaliser, ça doit être dans tous les cas, et de la majorité et de l'opposition, que surtout, nous qui nous disons leaders du coin, où on devait être capable de se dire, mais qu'est-ce qui se passe réellement, que comme vient de le dire l'expert, qui est ceux qui sont recrutés à Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et ailleurs, et que parfois il y a des mariages contre nature de groupes armés avec ceux-là qui tient leurs propres frères. C'est quand même un phénomène à examiner et les leaders devraient se retrouver ensemble.
Merci.
Et de nous amener, proposer des candidats qui ignorent tout de ce que l'armée a fait là-bas.
Merci Ferdinand Kambere. Merci, nous allons vous redonner la parole. Honorable Kiro Tchongo, vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Kisangani.
Je suis un citoyen de Kisangani dans la province de la Tchoto. Si le président Albert Sang montre un groupe terroriste irresponsable de la massacre à répétition, pourquoi les États de la sous-région gardent-ils silence et catastrophe? Pourquoi la communauté internationale ne réagit-elle pas de la même manière que les autres intervenus en Syrie, en Irak et Turquie? On n'a pas qu'il faut faire de la vie pour intervenir en retard. Et a le fait de recourir pour justifier, devant une quelconque recommandation de la communauté internationale. Même les États de la région n'ont-ils pas intérêt à poursuivre des pratiques contre ce réseau qui risque d'avoir un impact négatif sur la région tout entière?
Honorable Kiro Tchungo.
Si vous pouvez répéter la réflexion de l'auditeur, parce que j'ai eu du mal à saisir.
En fait, il veut dire que la communauté internationale ne réagit pas de la même manière qu'elle était intervenue en Syrie et en Irak.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a une ambiguïté dans le comportement de la communauté internationale à travers la MONUSCO par rapport à ce dossier. Parce que vous pouvez voir qu'au même moment que la MONUSCO engage ses troupes aux côtés des FARDC, Dans le même temps, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Mme Leila Zerougui, avait, à l'occasion d'une conférence de presse à Bénin ici, réclamé que des négociations soient ouvertes avec ces fameux EDF. Donc, il faut qu'on sache à quel niveau se situe exactement cette communauté internationale. Faut-il faire la guerre aux EDF ou bien faut-il négocier avec? Donc, il y a une ambiguïté dans ce que la communauté internationale fait. Mais j'aimerais quand même revenir sur ceci. C'est-à-dire que, en parlant des EDF, parce que vous avez posé la question de savoir qui massacre à Beni. Les EDF, il y a quelques années, le commandement militaire nous avait affirmé qu'ils avaient été affaiblis et que leur capacité de nuisance avait été réduite de 85%. Ça, c'est une réalité, n'est-ce pas? Or, la manière dont les choses se passent sur place ici, des EDF, ils ont des groupes armés, des égorgeurs qui se comportent comme s'il n'y avait vraiment pas de résistance autour d'eux. C'est vrai que ce sont des terroristes, des guerriers, mais nos FARDC doivent être en mesure d'avoir des unités combattantes qui peuvent faire les combats de nuit, n'est-ce pas? Donc il y a tout cela qui doit être mis à jour. Mais il y a aussi, en ce qui concerne l'identification, il y a beaucoup d'observateurs qui mettent en relation, qui font la relation entre les massacres et le phénomène des migrations, parce qu'on n'en parle pas assez. J'ai devant moi ici un mémo écrit il y a quelques semaines par les notables de la ville de Bénin. Ça veut dire les personnalités les plus respectées de Bénin. Je vais vous lire ce qui est écrit à la page 4. Une phrase qui dit « Les massacres des populations de la ville et du territoire de Bénin sont dus au déplacement des populations d'origine inconnue vers cette contrée sous prétexte qu'elles viennent chercher des terres arables et des pâturages. » Donc, c'est aussi un phénomène que nous ne pouvons pas occulter. Vous voyez, il y a ça aussi.
Voilà, il y a aussi, Monsieur Kiro Tchungo, il y a certains experts qui invitent le gouvernement congolais à réactiver la diplomatie afin de couper la chaîne des ravitaillements de ces rebelles. Et cela veut dire que la RDC, en plus de l'approche militaire qu'elle utilise actuellement, doit mettre aussi un accent particulier sur l'approche diplomatique.
Oui, tout à fait. L'approche diplomatique, c'est une approche inévitable parce qu'il est entendu quand même que, en ce qui concerne par exemple les fameux migrants qui viennent soi-disant des Massissi et des Routour et qui en réalité, au dire de la société civile, au dire des notables, au dire de la population, sont en réalité des Rwandais, donc il faut prendre langue avec les Rwandais. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème se trouve surtout à l'interne, l'absence de l'État, l'inefficacité de l'État.
Merci.
Et comment dire, les responsables qui ne sont pas jugés sur leurs résultats, mais sur leur appartenance politique.
Merci, on va vous redonner la parole, le maître Oswald Bafounimba, quand vous allez suivre cette réflexion qui vient de Kolozi.
Chouk Mouigiro à partir de Kolozi. Cet énième massacre à Beni traduit la faiblesse de notre système de sécurité, la défaillance de notre gouvernement. C'est comme dans un match de football. Lorsqu'à chaque attaque, l'équipe adverse parvient toujours à marquer, c'est qu'il y a un problème au niveau de la défense. C'est pourquoi je pense que le premier défi à relever pour le gouvernement prochain sera de réformer, professionnaliser, rendre approximatif et très efficace notre système de sécurité, motiver les militaires et policiers en améliorant suffisamment leurs soldes, car le manque de motivation peut aussi impacter négativement les résultats sur le terrain.
Maître Zouade Bafoumiabaka, là nous sommes dans les solutions.
Oui, notre auditeur a parfaitement raison, c'est que à côté de toujours compter sur la communauté internationale, l'organisation doit venir de notre gouvernement, c'est-à-dire que nous devons à notre niveau avoir une politique sécuritaire, un système sécuritaire spécial qui nous aide à qui permette à éradiquer ce phénomène. Et c'est comme ça que parmi les recommandations que nous avons à donner, c'est que en principe pour le gouvernement ou pour le régime qui sera issu des élections du 23 décembre prochain, c'est que nous devons avoir une politique sécuritaire spéciale pour cette partie de la sous-région, parce que nous comprenons que il y a un problème qui se pose depuis 4 ans et que nous devons éradiquer. Mais à côté de cela, il y a le fait que nous devons en principe arriver à obtenir la tenue d'une conférence internationale sur la situation des Béni, parce que c'est, comme je le disais tantôt, il s'agit d'un phénomène terroriste internationalisé et que seuls les partenaires de la communauté internationale devraient s'associer pour trouver une solution. À côté de cela, bien entendu, il y a la diplomatie aussi, parce que comme vous le savez, dans les techniques militaires, il y a ce qu'on appelle les talk and fight, c'est-à-dire au même moment qu'on est sur le champ de bataille, on doit activer les mécanismes diplomatiques pour arriver à savoir au fait quelles sont les revendications de fond de ces rebelles.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Monsieur Ferdinand Kambere, comment vous réagissez aux propositions de Maître Oswald Bafoumiabaka qui parle d'une politique sécuritaire spéciale, n'est-ce pas, pour cette partie du pays? Il propose aussi une conférence internationale sur la sécurité dans cette partie du pays et aussi mettre un accent sur la diplomatie. C'est aussi votre conclusion. Ferdinand Kambere. Apparemment, nous l'avons perdu. Honorable Kiro Tchongo, votre conclusion, comment vous réagissez aux propositions de Maître Bafoumiabaka qui parle d'une politique sécuritaire spéciale pour Béni, l'organisation d'une conférence internationale sur la sécurité dans cette partie du pays? Kiro Tchongo?
C'est pas mal qu'on organise une conférence internationale sur la sécurité à Béni. C'est même normal parce qu'il y a quand même plusieurs pays qui interviennent dans le maintien de la sécurité ici, mais je crois qu'il y a aussi à l'interne, au sein de FRDC, au sein de nos services, des efforts qui doivent être faits. Je vais encore vous lire une page d'une fameuse mémo des notables de Béni, qui disent clairement, les FRDC sont infiltrés par des hommes de groupe provenant des brassages et mixages. Ceci ne permet pas la coordination dans le commandement, car j'utilise le fait que certains officiers des FRDC qui tombent au front sur la terre congolaise sont enterrés dans d'autres pays. Je lis encore un autre paragraphe. Les FRDC, malgré leur volonté reconnue pour l'éradication de ce phénomène de massacre, sont victimes de trahison, de détournement, de leur sorte, de narration ainsi que de leur équipement et de l'évolution. Merci à tous.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Alain Goy qui était à la technique. Merci à Dora Madimba qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipelamondo, à la présentation Guy Maté. Merci à ce mercredi pour un autre débat. Bon suite de programme sur Radio Capi.